Les amis de la Terre internationale et la Radio Monde Réal présentent cette émission spéciale Covid-19, le chemin des peuples de la crise à la reprise.
Chères auditrices et auditeurs de la Radio Monde Réal, bienvenue. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission organisée par les Amis de la Terre internationale en collaboration avec la Radio Monde Réel. Nous sommes là avec nos invités pour partager des connaissances et des expériences de la crise de la pandémie à coronavirus. Spécifiquement, nous allons réfléchir sur comment les organisations de base ont fait face à la pandémie dans les territoires. Quelles stratégies ont-elles utilisées pour assurer la santé et le bien-être des populations locales? Et puis, une analyse politique du point de vue systémique sera faite, qui va donner une idée sur les impacts de la pandémie, puis les mesures prises. Alors, nous avons avec nous Juliette Prénon, qui travaille pour les Amis de la Terre France, chargé du programme lobbying et régulation des multinationales. Je voudrais aussi nommer Melik Osden, qui est le directeur du Centre Europe et au monde des TIM, qui est basé à Genève. Flora Lamero, du Centre pour l'environnement et du développement, CED, les Amis de la Terre Cameroun. Flora, donc, est chargée de la communication et du suivi de projet. Aldrin Calix, qui nous vient directement de Haïti, qui est donc le directeur de Haïti Survie, les Amis de la Terre Haïti. Et Clarisse Yapo, qui travaille pour Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Côte d'Ivoire, qui est une organisation de protection de l'environnement. Merci encore une fois, et je passe la parole à mon co-facilitatrice pour les toutes premières questions. Je voudrais nommer Madeleine Brass, qui est donc basée à Amsterdam et donc qui co-facilite cette émission avec moi.
Merci Kwame, merci beaucoup et merci à tout le monde d'être là. Si vous pouvez me dire, quels ont été les impacts du COVID-19 dans vos territoires? Tant en termes d'impact sanitaire que d'impact des réponses gouvernementales à la crise. Et je passe la parole à Melik pour répondre. Merci.
Très brièvement, en décrétant le confinement généralisé partiel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, de nombreux gouvernements n'ont pas seulement imposé des mesures de distanciation physique, mais ont restreint les libertés. Par exemple, l'interdiction des grèves et des manifestations, surveillance accrue des populations par des moyens technologiques sophistiqués, etc. Si on prend l'exemple de l'Europe, la réduction budgétaire dans le domaine social, y compris celui de la santé, a eu des impacts désastreux sur la prise en charge des personnes dites vulnérables, touché par le Covid et a eu comme conséquence la surmortalité dans de nombreux pays. Ne parlons pas des pays qui ne disposent pas de système de santé, bien évidemment.
Très bien, merci beaucoup.
Alors, bon, merci et bonjour à tout le monde. Nous, au niveau de notre organisation, tout le monde a dû se réorganiser avec le télétravail. Moi, personnellement, j'ai deux enfants en bas âge, donc on a dû aussi s'organiser avec la mission impossible qui nous était donnée de à la fois garder nos enfants, leur faire la classe et travailler en même temps, parce que le télétravail, on considérait qu'il était possible de travailler et en même temps s'occuper de ses enfants et leur faire la classe. Donc, ça a été une période un petit peu compliquée à gérer pour gérer toutes ces activités en même temps, même s'il faut reconnaître qu'en France, il y a quand même eu des aides particulières qui n'existent pas dans d'autres pays, avec notamment du chômage partiel, un grand nombre de personnes ont pu bénéficier et bénéficient encore aujourd'hui. Donc, il y a, même si la crise économique qui s'en est suivie touche de plein fouet une grande partie de la population avec une aggravation des inégalités, etc., je pense que c'est bien moins grave par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on voit dans d'autres pays avec qui on est en contact. Et ce qu'on a fait pour se réorganiser, c'est que notamment on s'est mobilisé sur déjà en termes de communication pour essayer d'analyser la crise, c'est-à-dire analyser justement quelles sont toutes les politiques qui ont mené à cette crise, en quoi c'est lié aussi aux crises climatiques et environnementales actuelles. Et aussi, on s'est réinventé puisque, comme disait Mélique, on avait toute une restriction sur les possibilités de manifester, etc., alors qu'au tout début de la pandémie, on était justement à la veille d'une grande marche pour le climat. Et donc, on a dû passer à beaucoup plus de mobilisation en ligne. Et ça, on l'a fait notamment pour dénoncer les pratiques d'Amazon, l'entreprise d'e-commerce, contre qui on faisait déjà une campagne, mais cette fois-ci, on s'est surtout mobilisé aux côtés des syndicats pour défendre les droits des travailleurs qui étaient menacés directement. Parce qu'en fait, eux, leur activité s'est accrue avec le confinement, avec la crise et avec aucune mesure sanitaire dans les entrepôts qui, du coup, devenaient des nouveaux lieux de contagion importants. Et on a réussi, finalement, en se joignant à même une action en justice avec un syndicat qui s'appelle l'Union syndicale solidaire, à finalement, au bout d'un certain temps, faire fermer les entrepôts d'Amazon. Et tout ça, on l'a réussi grâce notamment à cette action en justice, mais aussi avec la pression qui a été créée par toute une campagne de communication sur les réseaux sociaux et dans les médias.
Alors, Juliette, vous vous êtes associée à des syndicats. Est-ce qu'à part les syndicats, il y a eu d'autres organisations, par exemple de la société civile ou des organisations de femmes?
Oui, voilà. On a. Alors, la crise du coronavirus nous a donné l'occasion, comme je disais, d'analyser qu'est-ce qu'il y avait derrière cette crise, mais aussi de commencer à proposer des solutions et en tout cas un plan de sortie de crise qui ne nous replonge pas dans ce monde d'avant qui nous a mené à cette crise et à toutes les autres. Et donc on a lancé la coalition Plus Jamais Ça, qui est une coalition qui réunit, je crois qu'on est une trentaine d'organisations sociales et syndicats. Nous, les Amis de la Terre, on est dans le groupe de coordination des 8 organisations qui coordonnent, qui comprennent aussi, par exemple, Greenpeace, Oxfam, et du côté des syndicats, la CGT, la CFDT et l'Union syndicale solidaire, et aussi la Confédération paysanne, donc la Via Campesina en France. On a fait un plan de sortie de crise très complet avec ces organisations qu'on a rendu public, je crois que c'était au mois de mai ou juin, avec des propositions concrètes dans les différents domaines économiques, fiscales, santé, etc.
Merci Juliette.
Je suis Flora Lamero. Je travaille pour le Centre pour l'environnement et le développement, en abrégé CED, qui représente les Amis de la Terre au Cameroun. En ce qui concerne les réponses gouvernementales, plusieurs mesures ont été prescrites, hein, un peu comme partout dans le monde. Donc, ces mesures universelles, les mesures barrières, qui consistent à porter des cache-nez, maintenir une certaine distanciation, se laver les mains, utiliser le gel hydroalcoolique. La communication a été faite, des matériels ont été distribués, mais ce que nous avons relevé, c'est que la communication a été beaucoup faite au niveau des villes rurales. Et nous qui travaillons beaucoup plus avec les communautés, on a vu qu'il n'y avait pas un très grand impact de la communication au niveau de ces communautés-là.
Nous allons donc continuer pour mieux comprendre les impacts de cette pandémie. Nous voulons savoir les communautés avec lesquelles vous travaillez ou organisations avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que ces communautés et ces organisations ont-elles élaboré et dirigé une stratégie d'éducation ou bien de communication pour aider les gens à faire face à la crise?
Alors, bonjour à tous les auditeurs. Alors, bien avant de commencer à parler des impacts, il faut dire que l'avènement de la pandémie a véritablement montré une inquiétude au niveau des populations par rapport aux mesures barrières qui ont été prises par les gouvernants pour pouvoir freiner la propagation de la maladie. Bien qu'il y ait eu des informations sur cette pandémie-là, il faut dire que les communautés ont véritablement ressenti des effets très négatifs sur leur activité. On peut noter l'arrêt de certaines activités, surtout dans le secteur informel, l'absence de clients, s'il y a arrêt, bien sûr, la main-d'œuvre aussi qui a été très réduite, la fermeture aussi de certains marchés. Alors, par rapport à cela, au niveau de JV Côte d'Ivoire, nous avons aidé certaines communautés. Concernant Abidjan, il y avait eu à un moment donné la fermeture de certains petits marchés pour des raisons quelconques que nous ignorons, parce que nos dirigeants estimaient que ces marchés était entre autres la cause de la propagation de la maladie. Alors pour cela, nous avons soutenu, développé des stratégies pour pouvoir faire face à la crise au niveau de ces communautés-là. Nous avons doté, offert des kits sanitaires à ces communautés des marchés, non seulement pour pouvoir faire face à la maladie, mais aussi de pouvoir permettre aux femmes, puisque ce sont elles qui sont en première ligne dans cette crise-là, de pouvoir garder leur activité, surtout dans ces moments très difficiles. Donc, pour ce qui est de la stratégie de communication, nous avons conçu des affiches, nous avons aussi réalisé des petites vidéos pour pouvoir sensibiliser davantage sur les mesures barrières adoptées, tout ça. Et puis, avec la communauté avec laquelle nous travaillons, nous avons, puisque les déplacements étaient limités, donc, nous avons créé des groupes WhatsApp pour pouvoir communiquer davantage avec elles parce qu'il fallait rester toujours en connexion avec ces communautés-là.
Je voudrais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, Larissa. Vous avez dit que les femmes sont en première ligne à faire face à cette crise. Est-ce que vous pouvez nous approfondir un peu sur cette idée?
Ok, merci. Je disais que les femmes sont en première ligne de cette crise du coronavirus parce que ce sont les femmes qui sont en charge de couler les produits, les matières premières qui sont fournies dans nos marchés. Ce sont elles qui sont également, qui jouent un rôle très important au niveau de tout ce qui concerne l'agriculture. Nous étions allés tout dernièrement au moment où la pandémie, pas qu'elle était terminée, mais où il y avait une baisse des taux de contamination. Nous sommes rendus dans les villages où les communautés nous ont vraiment signifié que depuis l'avènement de la COVID-19, elles ont vu un peu toute leur provision vraiment en péril parce qu'elles n'arrivaient plus à écouler les produits issus de leur champ, parce qu'il n'y avait plus de route, puisqu'il y avait eu, les déplacements étaient limités, il y avait eu également un grand confinement au niveau d'Abidjan, donc l'écoulement des produits au niveau de l'intérieur ne pouvait plus véritablement être acheminé au niveau d'Abidjan. Donc les produits sont là, et même s'il faut l'avoir pour se nourrir, mais il arrive un moment où la quantité est faite de telle sorte qu'on ne peut pas tout manger en même temps. Donc finalement, les produits ne sont plus, se gâtent, comme elles l'ont dit. Donc ça a vraiment affecté les femmes, ce qui fait qu'elles ont dit aussi qu'elles ont commencé à changer quelquefois d'habitude, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à utiliser des engrais chimiques pour pouvoir traiter leur champ. Donc, nous prenons l'utilisation des méthodes naturelles pour pouvoir traiter les champs, pour pouvoir faire de bonnes pratiques agricoles. Ce sont les femmes qui sont le plus touchées dans les ménages.
sont les femmes qui font face. Quand une femme voit son mari peut-être en arrêt de travail, par exemple, c'est la femme qui subvient aux besoins de la famille. C'est la femme encore qui dans les marchés sont menacés de fermeture, les femmes encore contribuent encore à subvenir aux besoins des familles. Donc, ça, c'est vraiment un problème vraiment crucial au niveau des pays africains. Les pays africains, et cela se voit beaucoup, s'observe beaucoup au niveau de la Côte d'Ivoire et bien entendu dans d'autres pays également.
Ok, merci Larissa. Oui, c'est très intéressant d'entendre ça et le contexte dans votre pays.
Et mon nom, c'est Aldrin Calixte. Je travaille pour les Amis de la Terre Haïti, Haïti Survie. Donc, c'est un plaisir pour moi de rejoindre cette émission. J'imagine que la situation en Haïti n'est pas différente de celle qui s'est passée, que ce soit dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie. Et nous autres, Haïti Survie, étant donné que les premiers cas et le premier décès que nous avons enregistré en Haïti, c'est dans les deux premiers décès, c'est dans le nord-est, c'est dans une zone que nous travaillons. Donc, et ça a certainement nous a mobilisé davantage de telle sorte que nous puissions aider la population. Parce que c'est sensibiliser, diffuser les informations. Par exemple, on avait mis en place un réseau d'informations. Et à travers un groupe, c'est pour partager les informations que nous recevons des autorités sanitaires. Avec l'appui de partenaires financiers, on a quand même accompagné certaines communautés et de telle sorte qu'ils puissent avoir une certaine assistance financière durant la période de confinement. Et aussi, nous avons mis en place un programme pour les mesures barrières. Et par exemple, dans les régions où il manquait de l'eau, par exemple, c'est des points d'eau où les gens s'agglutinaient, je dirais, pour aller chercher de l'eau. Donc, on a essayé d'apporter de l'eau, au niveau des ménages, de telle sorte que pour diminuer les accoupements et qui auraient pu exister au niveau des points d'eau. Il y a les risques de contamination. Donc, à ce niveau, on travaille aussi avec les autorités régionales. Donc, on peut dire que cette crise a affecté les communautés et les plus vulnérables. Par exemple, étant donné que c'est des gens qui menaient, je dirais, des activités quotidiennes pour leur survie, mais malheureusement, à un certain moment, ils ne pouvaient faire aucune activité. Et comme un des collègues l'a mentionné, et on a vu qu'avec durant la période de COVID, en Haïti, on a renforcé ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Par exemple, les gens prenaient beaucoup d'infusions et aussi utilisaient la médecine, je dirais, traditionnelle, la médecine naturelle pour faire face à cette situation.
Nous allons faire une pause d'une minute, une pause musicale. Le temps de s'essouffler un peu et de revenir. Chères auditrices et auditeurs de la radio Monde Réel, bienvenue à la deuxième partie de notre émission.
Merci, Kwame. Donc, on va passer maintenant à parler plutôt d'une analyse politique de la crise et les impacts de la crise de COVID-19. Que pensez-vous que la crise du COVID-19 nous apprend sur le système actuel, soit le système social, le système économique?
J'aurais quatre observations à faire à ce propos. Premièrement, la pandémie a révélé que nos sociétés modernes n'étaient pas préparées ni outillées pour faire face à une telle situation et qu'on n'apprend rien de nos erreurs. Deuxièmement, les droits humains dans leur ensemble, c'est-à-dire civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, continuent d'être bafoués à des degrés divers partout dans le monde. La pandémie liée au Covid-19 a tout simplement exacerbé cette tendance. Troisièmement, la pandémie a démontré également la fragilité de la société de consommation et de la délocalisation à l'échelle mondiale de la production des biens et des services, étant donné que la fermeture des frontières et l'arrêt de nombreuses activités ont pratiquement paralysé la vie économique, sociale et culturelle. Ainsi, des dizaines, voire des centaines de millions de personnes supplémentaires ont été privées de leurs droits élémentaires, tels que les droits à la vie, à l'alimentation, à la santé, au logement salubre, à l'éducation, au travail décent et à un niveau de vie suffisant, en particulier dans les pays qui ne disposent pas de services publics dignes de ce nom ou qui ont réduit le budget de ces derniers en obéissant à ce qu'on appelle à l'économie de marché. La situation est évidemment pire dans les pays du Sud, dont l'économie est dépendante en grande partie de l'exportation et ou du tourisme. Il ne faut pas croire évidemment que les pays du Nord gèrent mieux la situation vu l'interdépendance de plus en plus marquée des économies à l'échelle mondiale. D'ailleurs, les prévisions des institutions internationales telles que le FMI et l'OIT sont sombres pour l'année en cours. L'économie mondiale sera contractée de 3% et 1,6 milliard de travailleurs de l'économie informelle, ce qui représente donc près de la moitié de la main-d'œuvre mondiale, risquent d'être privés de leurs moyens de subsistance. L'augmentation du taux de chômage dans de nombreux pays industrialisés inquiète déjà les observateurs. Quatrième et dernière observation, la pandémie a révélé également le rôle irremplaçable de l'État dans une telle situation, mais la plupart des États sont bien démunis vu qu'ils ont été dépouillés de leurs prérogatives et de leurs moyens par l'imposition des programmes dits d'ajustement structurel ou de mesures similaires, avec la mise en place d'un seul modèle de développement, appelé néolibéral, des pieds plusieurs destinées.
De notre côté, je suis complètement d'accord avec ce que disait Mélik. Pour compléter, je pense que en fait, la crise, comme je le disais un peu plus tôt, ça a été juste un révélateur de ce qu'on venait, nous, déjà dénoncer depuis un certain nombre d'années sur les impacts de l'économie mondialisée, du système dominant néolibéral actuel et de ce système économique insoutenable, que ce soit au niveau social ou environnemental. De la même manière, nous, on travaille aux Amis de la Terre, et moi plus particulièrement, sur les questions de lobbying, donc d'influence des multinationales sur les politiques publiques. Là, on a voulu regarder qu'est-ce qui se passait pendant la crise du coronavirus. Et là, on a eu finalement une accentuation des problématiques liées à cette capture des processus de décision politique par les multinationales, puisqu'on a eu une opacité accrue, parce que tout ce qui est les canaux habituels d'accès aux décideurs ont été coupés, donc c'était vraiment là la prime à tout ce qui est relations interpersonnelles, c'est-à-dire que Il y avait encore plus une asymétrie d'accès aux décideurs entre la société civile et les grandes entreprises qui étaient directement invitées dans les cellules de crise par le gouvernement, tandis qu'on mettait de côté les syndicats ou les organisations de la société civile. Et en fait, les lobbies des grandes entreprises ont profité de la crise pour faire deux choses. D'une part, l'instrumentaliser en maquillant leurs vieilles demandes à la sauce coronavirus, donc en remettant au bout du jour des demandes qu'elles avaient de dérégulation, d'attaquer des réglementations sociales et environnementales en essayant de se cacher derrière la crise du coronavirus. Et par ailleurs, et ça ils continuent de le faire, c'est qu'ils essayent de s'accaparer l'argent des plans de relance et des plans de sortie de crise.
Si je peux rajouter quelque chose à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, ici, notre expérience est que la crise nous a montré qu'il y a beaucoup de ressources que l'on pouvait exploiter au-delà des canaux classiques à utiliser dans le cadre du système sanitaire. Nous, particulièrement, nous avons, lorsque je parlais dans mon introduction de la communication envers les communautés rurales, nous sommes beaucoup rapprochés de ces communautés-là et nous avons observé qu'elles développent elles ont d'autres manières de gérer ce type de crise. Donc, nous avons constaté que beaucoup de personnes, même au niveau du gouvernement, cela a commencé à être pensé. Il y a beaucoup de ressources naturelles dont on peut profiter pour améliorer notre santé parce que notre système n'est pas forcément le meilleur. Mais les communautés rurales et particulièrement les peuples autochtones disposent de beaucoup de ressources qui nous seraient utiles. Donc, beaucoup de recherches sont en cours dans ce sens-là.
Pourriez-vous réfléchir rapidement à la manière dont les gouvernements, en particulier dans votre région, on fait face aux conséquences économiques de la pandémie?
Alors, il y a des craintes légitimes. Hein, que la plupart des gouvernements ne tirent pas de leçons des politiques de développement erronées mises en lumière avec la pandémie et continuent sur la même voie comme si de rien n'était pour défendre les intérêts d'une élite mondiale déconnectée de la réalité ainsi que le statu quo. Si on prend l'exemple de nouveau des États européens, il y a plusieurs États européens qui ont annoncé l'aide aux entreprises. Alors, il semblerait que cette aide privilégie plutôt les grandes entreprises cotées en bourse qui continuent à distribuer des dividendes à leurs actionnaires. Autrement dit, si on ne change pas des paradigmes de développement, si on n'abandonne pas les politiques néolibérales, les crises dans tous les domaines qui perdurent, hein, dans le domaine social, économique et environnemental, dans tous les domaines pratiquement politiques, etc., pas seulement dans le domaine sanitaire. Donc ces crises, il est évident que si on ne change pas des paradigmes, ces crises perdureront, continueront à poursuivre leur chemin. Donc, il faut absolument que cette pandémie doit être un signal d'alarme pour changer notre façon de produire, notre façon de vivre, notre façon de concevoir les choses.
Pour poursuivre dans la même ligne de ce que disait Mélik avec des exemples un peu concrets que nous on a vu en France. Donc, comme je disais, en fait, les lobbies des grandes entreprises ont en effet été très actifs et continuent d'être très actifs pour capter cette manne d'argent public qui est débloquée pour faire face à la crise. Donc, on peut reconnaître qu'il y a en effet beaucoup d'argent public qui est débloqué actuellement. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un vrai débat démocratique? Et donc, nous, on avait mis en lumière, notamment, analysé le cas d'Air France, donc la compagnie aérienne française qui a bénéficié d'un premier soutien de 7 milliards d'euros sous la forme de prêts d'une garantie d'État. Et en fait, ce soutien à Air France a été fait, alors soi-disant avec des conditions environnementales, mais en fait, quand on regarde de plus près, ces conditions, elles n'ont tout d'abord rien de contraignant. Donc, aucune sanction si, par hasard, Air France ne respecte pas ces conditions. Mais surtout, en fait, quand on regarde le contenu de ce qu'il y a, on a, par exemple, le fait que, en fait, on ne va pas avoir une suppression de certaines lignes nationales, ce qui aurait pu avoir un impact climatique positif, mais juste, a priori, un transfert de ces lignes à la filiale low-cost d'Air France, Transavia. Pareil, ils ont aussi en fait promu notamment le recours à la compensation carbone ou aussi un recours accru aux agrocarburants qui est là aussi un cadeau caché fait à Total qui a un projet de ce qu'ils appellent une bioraffinerie d'huile de palme dans le sud de la France dans lequel on est aussi mobilisé. Et on a, ça c'est l'exemple d'Air France, mais on a la même chose sur un grand nombre d'autres entreprises, comme aussi le parapétrolier Vallourec, qui était déjà en crise et qui est finalement une entreprise qui devrait être vouée à disparaître dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et là aussi, on a eu une montée de l'État au capital de l'entreprise sans aucune condition, alors qu'on pourrait avoir des conditions aussi sociales à ces aides, par exemple pour des entreprises pétrolières ou parapétrolières, qui doivent penser à une reconversion de leurs activités, d'avoir des demandes concrètes en termes de plans de reconversion pour les salariés de ces entreprises qui, inévitablement, ont des emplois qui sont liés à un monde du passé. Donc, il y a en effet, clairement, et bon, avec le gouvernement actuel qu'on a en France, qui est très libéral, c'est pas une surprise, mais on continue d'aller dans le mur. Des solutions existent, les solutions sont là, il manque la volonté politique et donc ça c'est là où on essaye de continuer de jouer notre rôle pour essayer de faire pression sur le gouvernement qui ne sont non seulement pas à la hauteur de la crise mais qui risquent de nous enfoncer encore plus dans cette crise.
Merci Juliette, merci aux autres d'avoir répondu. Donc vous avez bien réfléchi à ce que cette crise nous montre sur le système actuel. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un système qui est marqué par de grosses inégalités économiques, sociales et d'autres inégalités. Donc, je voudrais poser une question à Audrine. Est-ce que vous pouvez réfléchir à l'impact inégal de la pandémie dans votre pays et dans votre région?
En fait, ceux qui ont été revenus précédemment, ont donné certains aspects, mais qui est pratiqué. Dans le cas des pays, je prends le cas des pays du Sud où les ressources sont vraiment limitées. Par exemple, si je prends le cas d'Haïti, donc il y a certaines entreprises qui malheureusement n'ont pas eu de support du gouvernement parce que c'est des entreprises qui ont pratiquement fait faillite et qui ferment leurs portes, ce qui ouvre la possibilité de renforcer l'importation avec d'autres camps de multinationales. Et par exemple, je prends le cas de certaines entreprises qui aujourd'hui ont fermé leurs portes et malheureusement, les salariés ont dû rentrer chez eux et souvent fois, les impacts directs de cette situation et ça aura des conséquences directes sur l'environnement, les ressources naturelles. Et par exemple, si on prend un autre aspect également, c'est comme on sent que avec cette situation, étant donné que c'est une situation globale, une crise globale, donc la coopération, je dirais, était dans une certaine mesure faible. Par exemple, il y a eu par le passé des crises Et le fait que cette crise était un petit peu régionale ou circonscrite dans l'espace, et on sentait une certaine solidarité, et je dirais des pays amis. Mais avec le COVID, c'est vrai qu'ils ont manifesté une certaine solidarité, mais aujourd'hui, c'est, si je permets de le dire, c'est des miettes, c'est de petites subventions qu'on apporte aux pays pour adresser la situation. Et ces pays, malheureusement, utilisent les ressources dont elles disposent pour adresser les problèmes liés à la crise. Et il y a très peu de ressources pour d'autres actions qui pourraient renforcer leur résilience par rapport à cette situation.
Donc, vous avez tous et toutes parlé des problèmes du système actuel. Pourriez-vous réfléchir à des alternatives au système actuel et aussi à la possibilité d'une juste récupération du COVID-19?
Des solutions existent. Elles sont connues depuis fort longtemps. Donc, en tant que septième, j'aimerais faire plusieurs propositions concrètes concernant votre question. En ce qui concerne le droit à la santé et la santé publique, il faudrait se pencher en priorité sur les déterminants sociaux de la santé, ce qui implique l'éradication de la faim et de la malnutrition, de la pauvreté et des inégalités. Autrement dit, le respect et la mise en œuvre effective des droits économiques, sociaux et culturels. Je ne sais pas si j'ai besoin de détailler, il s'agit des droits à l'alimentation, à la santé, au logement, à l'éducation, au travail décent, à un niveau de vie suffisant, etc. etc. Donc, il faut mettre en œuvre concrètement des droits économiques, sociaux et culturels sans aucune discrimination. Juste un exemple parmi d'autres. À quoi pourrait bien servir un vaccin sur le COVID-19 pour les personnes qui souffrent de la famine ou de la malnutrition? Ça n'a aucune utilité. Évidemment, ces gens-là sont déjà sont atteints dans leur santé puisqu'ils ne peuvent pas manger à leur faim. En ce qui concerne le droit à l'alimentation, il faut privilégier, à l'instar de plus en plus de voix qui réclament, des circuits courts de production et de commercialisation. Dans ce cadre, la paysannerie familiale qui nourrit la grande majorité de l'humanité doit être soutenue. La paysannerie familiale est garante de la biodiversité et de la protection de l'environnement. À ce propos, la déclaration de l'ONU sur le droit des paysans, adoptée en décembre 2018, codifie non seulement les droits de la paysannerie familiale et autres producteurs d'aliments, mais prône également la souveraineté alimentaire, à savoir le droit des peuples de définir leur système alimentaire et agricole et le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes écologiques et durables, respectueuses des droits humains. En ce sens, cette déclaration constitue une feuille de route pour les collectivités publiques dans ce domaine. La coopération internationale de bonne foi est plus que jamais nécessaire, non seulement dans le domaine sanitaire ou du maintien de la paix, mais également dans le domaine du développement et de la mise en œuvre des droits humains. À ce dernier propos, les États, en vertu de leurs engagements internationaux, sont tenus de protéger, de promouvoir et de donner effet à tous les droits humains, à toutes les populations relevant de leur juridiction, en premier lieu à l'endroit des plus vulnérables, c'est-à-dire enfants, personnes âgées, réfugiés, migrants, personnes handicapées, etc. etc. Ils doivent également s'abstenir de violer les droits humains d'autres populations vivant sous la juridiction d'autres États par des mesures telles qu'embargo sur des produits alimentaires ou médicaux. De plus, les États qui ont des moyens doivent être solidaires avec les autres pour assurer justement la jouissance des droits humains pour toute la population. Quant à la société civile, n'oublions pas nous-mêmes, elle doit continuer à jouer son rôle de contre-pouvoir afin d'éviter que les gouvernements tombent dans le piège des pratiques arbitraires. C'est que la société civile doit également continuer à œuvrer en faveur de la justice sociale, de la justice environnementale et de la mise en œuvre effective de tous les droits humains, à condition bien entendu que la société civile se préserve de toute influence directe ou indirecte, des politiques partisanes des gouvernements et du secteur privé.
Donc, dans le cadre de cette crise, nous avons effectivement constaté qu'il y a des mesures qui n'ont pas été adaptées à tous les contextes. Et je vais particulièrement me baser sur notre principal axe de travail que nous faisons avec les communautés rurales, les peuples autochtones. Ces communautés-là, par exemple, ne disposent pas d'eau courante. C'est l'une des faiblesses également de notre système. Elles ne disposent pas d'eau courante, elles ne disposent même pas de gel hydroalcoolique, de savon, de masque. Et aussi, le mode de vie communautaire n'est pas vraiment compatible avec les mesures de distanciation sociale. Donc, ces communautés ont adopté des mesures endogènes qui reposent en grande partie sur leur pharmacopée traditionnelle et leur savoir-faire traditionnel. Mais la crise a mis en exergue une importante nécessité de conserver ces savoir-faire traditionnels. Mais tout ça est menacé par l'exploitation illégale et abusive des forêts que l'on observe. Donc la conversion des forêts pour des grandes plantations agro-industrielles et pour reconstruire les grands projets. Et cela risque de s'accentuer. La demande risque de s'accentuer parce qu'il y aura un besoin de relancer l'économie qui a été mise à mal justement par la crise. Donc, ce que nous pouvons proposer pour une meilleure prévention de ce type de crise et peut-être face aux autres pandémies, c'est qu'il serait important de protéger les savoir-faire traditionnels des communautés rurales et des communautés autochtones au Cameroun. Mais cela ne peut se faire que s'il y a une réelle reconnaissance du statut de ces peuples autochtones-là. Surtout une reconnaissance conformément aux engagements internationaux que l'État a pris en matière de droits de l'homme. Et il faudrait également que cette reconnaissance ne peut se faire que si les droits à la terre et au territoire des peuples autochtones sont reconnus. Donc, le gouvernement devrait, il y a une réforme française qui est en cours, il serait important que le gouvernement mette en place une réforme qui soit assez inclusive et qui ait une reconnaissance des droits des peuples autochtones sur les terres et les territoires qu'ils occupent pour exercer principalement leur activité. Parce qu'au-delà des savoir-faire traditionnels, il y a la forêt est leur principale source de revenus et la médecine traditionnelle dépend étroitement de la forêt. Et beaucoup de chercheurs ici au Cameroun se sont justement penchés sur les ressources naturelles ici de la forêt pour trouver des médicaments qui pourraient aider dans la lutte contre le COVID.
Si on part de la perspective internationale, il faut tout d'abord mettre à bas l'architecture de l'impunité dont bénéficient les multinationales, notamment via les accords de commerce et d'investissement, donc en mettant fin à ces accords et notamment aux mécanismes de protection de règlement des différends, le mécanisme controversé ISDS qui a été beaucoup utilisé aussi pendant la crise par les multinationales, et à l'inverse en adoptant le traité pour lequel on a un grand nombre ici à se battre, le traité à l'ONU sur les multinationales et les droits humains. Au niveau international, ça passe aussi par la mutualisation des recherches, des savoirs, des brevets pour garantir un accès mondial à tout ce qui est bien médicaux, et donc en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas que toutes ces, notamment tous ces nouveaux vaccins qui vont être développés contre le coronavirus ne viennent pas déjà soit développés avec toutes les mesures sanitaires nécessaires, toutes les précautions, le principe de précaution nécessaire pour protéger les populations, et par ailleurs surtout une fois qu'on a des vaccins sûrs ou des médicaments qui puissent être facilement accessibles par toute la population au niveau mondial, et donc qu'il n'y ait pas encore une fois des négociations malsaines qui profitent à l'industrie pharmaceutique. Si on prend au niveau plus national, il y a toute une réflexion, encore une fois c'est des choses qu'on demandait déjà avant, mais pour plus de justice fiscale, pour lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, pour du coup faire remonter de l'argent pour faire face à cette crise et aux autres crises qui existaient déjà, réguler les activités bancaires aussi, etc., taxer les transactions financières, et tout ça pour financer une transformation de nos modes de production, de mobilité, de consommation, donc avec des recherches à la fois d'efficacité énergétique, de relocalisation d'un certain nombre de productions, à commencer par la production alimentaire, après penser à tout ce qui est la crise sociale, donc avec la protection des droits des travailleurs, la protection des plus précaires qui sont encore plus touchés par la crise, que ce soit les personnes sans domicile, les migrants, etc. Et aussi une chose dont on a peu parlé peut-être aujourd'hui, mais qui a explosé aussi pendant la crise, c'est tout ce qui est violence faite aux femmes, notamment violence domestique. Et donc là aussi, il faut des mesures ambitieuses en la matière. Encore une fois, cette crise en fait a exacerbé des choses qui existaient, violations qui existaient et des violences qui existaient déjà. Il faut maintenant s'atteler à tous les niveaux pour apporter des solutions et stopper cet engrenage.
Chers auditeurs et auditrices, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission qui avait donné l'occasion à nos invités de partager des connaissances et des expériences sur la crise de la pandémie à coronavirus. Je voudrais ici remercier Madeleine qui a co-animé cette émission avec moi-même, Kwami. Nos remerciements vont également à nos invités, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices. Merci à vous. À la prochaine.